procurations, Pauline Lévier de mes procurations et Sylvie Amard, Valérie Bernadette Dumontier à Marie Mustache. Gaël m'a donné procuration et Jonas m'a donné procuration à Yves Chelano. Une secrétaire séance, Nadia, a signé un état civil. Donc Pascal Gori qui est décédé le 3 septembre, Fabien Pasto le 5 septembre. Et bon, on n'a pas eu d'infos de la famille, mais je le dis quand même, puisque c'était malheureusement la même semaine où notre titulaire de l'orgue, Jean-Paul Imbert, est décédé cette semaine-là aussi. Plus réjouissant, une naissance de Chacha Cavanier, Carillon Boiron, c'est un nom très composé, qui est né le 19 septembre cette année. Non, ben, on a l'info, Barlette qui est décédée, mais par contre, on n'a pas le message de la famille nous autorisant à le dire. Mais bon, on sait que Barlette Bory est décédée malheureusement aussi début de semaine. Avant de démarrer ce conseil, je voudrais revenir vers vous par rapport au retour que, d'ailleurs vous avez peut-être vu aujourd'hui dans la presse, mais qu'on a eu hier sur le tribunal correctionnel où j'ai été convoqué hier après-midi à Grenoble pour une audience qui a duré pratiquement 6 heures, où il m'est reproché ainsi que au maître d'œuvre qui avait été missionné par la commune à l'époque, ça concerne l'île aux loisirs, pour avoir, je dis les termes, méconnu les règles de la commande publique lors de la passation du marché public des paddles et du terrain de tennis attribué en 2021 à la société Laquet Tennis. Nadine, vous avez demandé de prendre une protection fonctionnelle, juridique et financière de la commune, qui de toute façon ne peut pas être engagé tant que l'annonce de la décision du tribunal sera donnée début décembre. À l'audience, la présidente du tribunal, c'est une présidente, et deux adjoints, deux juges, ont présenté la situation et exposé les reproches sur les conditions d'attribution de ce marché. Je vous les redis au cas où vous les ayez oubliés depuis. Les reproches sont au nombre de 4. Le principal est de ne pas avoir alloté le marché, c'est-à-dire c'est un marché qui était au départ de 650 000 euros, qui s'est retrouvé à la fin avec 100 000 euros de moins, mais justement, certainement peut-être parce qu'on avait alloté, mais en tout cas, parce qu'on n'avait pas le dit, parce qu'on avait fait un projet d'ensemble. Et le reproche, c'est de ne pas avoir fait un coup de mur, un coup les paddles, un coup le sol, un coup de... Bon, et d'avoir complètement détaillé au point d'avoir peut-être 5 ou 6 entreprises qui auraient dû travailler ensemble, alors que là, c'était une seule et même entreprise. Ensuite, le deuxième reproche, c'est un plan qui a été échangé entre le maître d'œuvre de la commune et la société Laquet Tennis, 2 mois avant le lancement de la mise en concurrence de ce marché, sachant que ce plan a été mis dans l'appel d'offres donc, de toutes les entreprises, pour lesquelles d'ailleurs 2 ont répondu. Et en fait, on a su hier que la procédure avait été lancée par un concurrent de la société Laquet, qui est un ancien en fait, de la maison Laquet. Que ce papier, ce plan de la situation, pas forcément actuelle, mais peut-être à l'époque, 2 mois avant le lancement de la mise en concurrence de ce marché. Un devis avait été adressé par nous, par la société Laquet à la commune, 9 ans avant le lancement de la mise en concurrence, puisque le marché date de 2021, et en 2012, la commune avait déjà... on avait demandé le tarif pour la mise en route de d'un marché pour l'île aux loisirs. Bon, c'est certainement pas le même, bien sûr, qui était à la fin, mais c'est la société La Caisse qui n'est pas du tout intervenue non plus. Et de ne pas avoir envoyé à la préfecture le marché attribué. Là, c'est le reproche qu'on a, sachant qu'effectivement, et là-dessus, la responsable de l'époque du service des marchés, qui, je le rappelle, en plus était avocate, a bien précisé dans les déclarations qu'elle a faites que c'était un oubli de sa part et que, d'ailleurs, madame, je ne dirai pas le nom de la préfecture, a répondu lorsqu'elle a été entendue par les enquêteurs que de toute façon, le fait de ne pas avoir envoyé à la préfecture le dossier en temps voulu n'avait aucune incidence puisque de toute façon, les dossiers sont envoyés a posteriori du choix des entreprises. Donc ça ne pouvait pas engendrer une influence sur le favoritisme de l'un ou de l'autre sur le choix des entreprises. D'ailleurs, elle avait rajouté aussi que pour elle, marché alloti ou pas, ce n'est pas interdit de ne faire qu'un seul regroupement de marché. Fort de ça, donc derrière ça, le procureur de la République a joué son rôle hein, de proposer de fixer une sentence pour nous trois. Donc, il a proposé une amende qui va de 5 000 € pour moi à 10 000 € pour les deux autres prévenus et une peine d'inéligibilité qui est automatique si le délit est avéré sans exécution provisoire, ça veut dire que sans blocage à court ou long terme. Les appels peuvent justement être pérennisés par ce fait-là. Bien sûr, derrière, et ça a duré au moins 3 heures, les avocats de chacun des trois ont tous fait d'excellentes plaidoiries et ont tous demandé la relaxe, estimant que l'infraction n'était pas constituée et qu'elle n'était pas du tout prouvée par qui que ce soit, et qu'en tout cas, c'est toujours un peu problématique de voir à quel point on peut être d'un coup mis à mal par des enquêteurs sans justification. Donc, je croise les doigts pour que ce soit début décembre, hein, mais je voulais simplement vous le dire par rapport aux annonces que pourrait faire la presse, et ça j'avais prévu de faire hier soir. Et aujourd'hui, il y a déjà eu un article sur le Dauphiné qui reprend à peu près ce que je viens de vous dire. Je voulais juste vous dire en passant que c'est pas un moment facile. C'est très difficile à vivre, je le souhaite à personne. Je pense que quand on est voyou, on a peut-être une façon d'aborder la chose un peu lointaine, mais en tout cas, quand on est appliqué, sérieux et je crois au service des autres comme je le suis, c'est un très très mauvais moment à vivre. Mais c'est comme ça, on a vraiment l'impression que les élus sont un peu la cible. Mais ça, on ne mettra pas dans le compte rendu. Mais je voulais simplement vous dire, avant de démarrer la réunion, je vais démarrer la réunion en vous demandant si vous avez des remarques sur l'approbation du Conseil du 17 septembre. Il y a des remarques? Pas de remarques? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Eric est venu nous rejoindre.
On te soutient.
On te soutient parce qu'il
n'y
a aucune raison de tomber dans des situations telles qu'elles sont, après avec des personnes qui sont là tout le temps pour défendre leur commune et travailler pour la commune comme tu peux le faire depuis de nombreuses années.
Merci. Bon, crac SATA pour l'année comptable qui est donc, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est un petit peu décalé, rappelez-vous. Décembre 30 novembre 2024, décembre 1er décembre 23, 30 novembre 24. J'ai ressorti vite fait les notes, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, mais je serai, Eric, on va reparler un peu aussi. Vous dire que des notes que j'avais prises pour l'Assemblée Générale qui s'est passé le 30 avril, donc qui statuait sur cette année-là, faisait ressortir un report, bien sûr, de chiffre d'affaires et de fréquentation, aussi augmenté par le fait qu'il fallait en être bien conscient que Oz et Bojani étaient revenus nous rejoindre. Mais malgré tout, l'augmentation était de plus de 10% de ZALT, et puis était chez nous de 7 ou 10%, sans parler bien sûr au total, puisque le total c'était de 32% avec le retour de la SPL, avec les journées aux skieurs qui ont beaucoup augmenté. J'avais en tête 22%, avec bien sûr des travaux qui ont été la création du 3S aux Deux Alpes, puisque c'était le plus gros morceau, avec le télécabine du Pic Blanc que vous connaissez, la gare de départ sur l'Uez le changement de toutes les bennes. Vu que ça, cette année en 2025, la gare intermédiaire a été terminée. L'année prochaine, on fera l'arrivée. Il y a eu un avenant signé à l'époque avec les Deux Alpes, sur un avenant de DSP qui clarifiait la situation avec la situation qui avait été reprise lorsque on a eu des dépassements, et notamment sur le prix du 3S et puis sur d'autres. Une masse de travaux qui était prévue ou pas tout à fait prévue. On avait mis en place un nouveau logo pour l'espace MPDS et le résultat qui était le résultat de l'entreprise était de 2,9 millions, si j'ai bien noté. Mais je vais te laisser peut-être Eric, si tu as quelques... rajout à faire ou quelques commentaires, ou sinon, s'il y a des questions.
Bon, je me souviens seulement de la réunion. La commission s'est réunie le 17 septembre, avec donc Gabriel, Denis et moi, pas tout le monde. Tout le monde était là, sauf. Excusez. Mais, vu les résultats de cette année qui étaient assez exceptionnels, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Les questions ont été posées par Gabriel, par tout le monde. Alors l'homme a été très sympathique et très bien passé. Maintenant, s'il y a des questions que les camarades veulent connaître, pas de souci.
Eric, un rajout peut-être si tu as quelque chose.
Donc c'est une très belle année. C'était l'année, attention, on parle de l'année 23-24. Il n'y a pas d'hiver qui vient de se dérouler. C'est une très belle année en termes de fréquentation, en termes de chiffre d'affaires. Il est vrai que l'arrivée et le retour pour la première fois du périmètre Oz-Bojani a fait que nous avons augmenté le chiffre d'affaires, mais pas que, puisque c'est essentiellement, il y a eu certes une augmentation du tarifaire, mais le nombre de journées skieurs a réellement augmenté. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est les passages qui ont aussi augmenté. Et aujourd'hui, un skieur, avec les investissements que l'on a fait sur les différents domaines et avec une politique de diversifier, d'amener les gens sur des flux, on est passé de 7 passages à plus de 10 passages. Donc les gens font plus de ski, même s'ils skient un petit peu moins de temps, mais ils font plus de ski. Donc c'est quand même quelque chose qui est à souligner. Ce qui est à surtout souligner, c'est une prise de connaissance de la politique RSE, puisqu'on a mis un directeur RSE en place sur la station, et aujourd'hui tous nos investissements et tous nos engagements sont basés sur la stratégie RSE, aussi bien, c'est comme ça qu'on est passé du GNR au HVO, on a des moteurs d'air pour les nouvelles remontées mécaniques, donc tout est tourné aussi vers le moins de consommation, et on a aussi fait des bilans carbone sur les différentes stations que l'on a, donc on est vraiment orienté sur cette politique-là. Après, s'il y a des questions sur les chiffres, je suis à la disposition pour y répondre. Mais voilà ce que je pense.
Est-ce que vous avez des questions ? Le vice-président, tu veux rajouter un mot ?
Rajouter, est-ce que. C'est, effectivement, c'est une très belle année. que le fait de reconstituer le domaine, l'espace Alpe-d'Huez complet, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et que là encore, les choses se sont bien passées avec certains groupes qui maintenant regroupent la grande station de l'Alpe d'Huez et puis tous les villages satellites autour. Dire aussi que les notes, malgré la fréquentation, ont été bonnes et que là où il y avait des manques, on a travaillé dessus, par exemple sur le direct au pic pour l'hiver d'après, donc on est réactif sur les demandes qu'il peut y avoir. Voilà.
Très juste, direct au pic a fluidifié le domaine en envoyant des gens balader un peu ailleurs avant de monter parce qu'ils avaient la sécurité de savoir pour monter à telle et telle heure. Donc du coup, et même ça a renforcé aussi les passages sur le pic, puisque où avant on n'avait personne vers 13h, là comme il réserve, on ne peut pas réserver à 10, à 11, ben, il réserve à 12, à 13, à 14, et du coup ça se remplit.
À 24, 25, ça c'est connu énormément.
Mais il y a deux choses, il y a le direct au pic qui fait que les gens réservent, mais comme on a mis des heures, et ben, il y a plus de mecs qui partent qu'habituellement, où le cabinier descendait et discuter avec le chef opérateur. Maintenant, c'est timé, la benne est prête, ils remplissent, boum, ça repart. Et donc, on a eu aussi un gain, parce qu'il faut dire ça, mais on a aussi un gain à ce niveau-là.
Et on aura plaisir à inaugurer la nouvelle benne cette année avec le télécabine de Toutran et avec le télémix du Riftel vers fin 29 ans.
Janvier 23. Juste une question, là, c'est pas sur la capacité de la nouvelle benne, elle est équivalente à la capacité de l'ancienne benne ?
À une ou deux personnes près.
Oui, d'accord. Okay.
Après, tout le problème est, et on va travailler là-dessus, c'est faire enlever les sacs à dos aux clients. Et le fait de faire enlever les sacs à dos, vous pouvez gagner une ou deux places supplémentaires.
Largement. Je crois qu'il y a une ou deux places de moins, mais par contre, il y a le remplissage avec une ouverture plus large qui permet de la remplir plus.
Donc, au final, les sacs, c'est important. Ouais.
La différence, elle va se faire sur la vitesse à laquelle on remplit. On rentre les gens.
On devrait, on espère, gagner du temps par un remplissage plus rapide, comme le dit.
Sac à dos, c'est une question de politesse.
Pas d'autres questions, Eric.
Moi, j'enlève toujours mon sac à dos.
Merci à tous. Merci, Eric. Merci, bah, écoute, il n'y a pas de souci, merci d'être venu. C'est un plaisir et le peu de questions montre à quel point on sait que le travail est bien fait, bien réalisé. Et on sait aussi que financièrement, nous aujourd'hui, Véronique m'a montré la facture qu'on a envoyée au département pour la taxe des remontées mécaniques pour cette année, donc je sais que ça te fait mal au cœur, Eric, mais alors nous fait pas mal au cœur, hein, puisqu'on est aux alentours de 2,5 millions, et ça c'est vraiment une taxe qui est exponentielle, un peu comme la taxe de séjour, ce qui justifie qu'on puisse ne pas augmenter les impôts ou qu'on puisse avoir un résultat très important. Donc bon, merci de ta collaboration, Eric.
Merci
à tous.
Je remercie les gens de la commission de leur travail.
Et prenez acte, quand Yves remercie, c'est...
Oui.
Donc, vous ne demandez pas de voter, hein, simplement d'en prendre acte du compte rendu annuel de la SATA pour l'année, telle qui est mise à disposition, telle que vous avez eue en version numérique que vous pouvez consulter quand vous voulez. Merci beaucoup pour cette deuxième délibération. On va maintenant prendre une délibération de soutien à nos pisteurs secouristes. Donc c'est Yves qui va vous la présenter.
Oui, la démarche part d'une saisine du président de la Fédération nationale de sécurité des secours sur les domaines skiables, Claude Jay, qui a saisi le directeur général de la sécurité civile pour évoquer la question de la formation des pisteurs secouristes. Ils ont une formation qui, pour l'instant, est spécifique à la montagne, en plus de la formation PSE 1 et PSE 2, c'est les premiers secours en équipe, niveau 1, niveau 2. Et après, donc, ils ont des formations pour le premier degré de pisteur qui se font à l'ENSA ou dans d'autres organismes de formation. Et après, des formations encore pour le deuxième degré. Et ainsi de suite jusqu'au troisième degré. En tout, ça peut représenter, pour quelqu'un qui fait les trois degrés, plus de 300 heures de formation. Et ça va bien au-delà du secourisme basique, même très performant, qu'à la protection civile. Donc, suite à cette saisine, la NMSM a aussi demandé que les conseils municipaux des stations de montagne puissent voter la délibération que je vais vous lire, de façon à soutenir cette motion et s'associer pleinement à cette démarche. Après, si vous avez des questions sur la formation, je pourrais y répondre. Donc, il est rappelé que grâce à l'instauration du plan de neige de 64 à 77, la France a mis en œuvre une doctrine neige qui l'a propulsée en avant-poste de l'économie mondiale des sports d'hiver. Cet engagement a nécessité la mise en place d'une organisation complexe afin d'assurer la sécurité des pratiquants des disciplines de glisse, ski alpin, ski nordique, ainsi que toutes les pratiques connexes qui se sont développées par la suite. Le socle de cette organisation s'appuie sur les services de la sécurité des pistes et sur les pisteurs secouristes. On totalise 51 949 interventions sur les domaines skiables alpins français pour l'hiver 23-24. Et on rappelle que le 5 octobre 1979, un décret a été pris pour officialiser la création du brevet national de pisteur secouriste avec trois degrés, la formation de base pour le premier degré, le deuxième degré secourisme et réanimation et le troisième degré le chef de secteur. On rappelle que dès lors, le pisteur est devenu un acteur majeur du secours en montagne. Le brevet national de pisteur secouriste est encadré par une série d'arrêtés et de décrets signés par les ministères de l'Intérieur en charge du tourisme et en charge de la jeunesse et des sports. Pour répondre à l'évolution des techniques de secourisme et à la modernisation des principes d'évaluation, une concertation a été engagée avec la DGSCGC, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, depuis plus de 10 ans, l'initiative de la Fédération nationale de la sécurité et des secours sur les domaines skiables. L'objectif était de rédiger de nouveaux référentiels de formation et de certification pour la formation des pisteurs secouristes, désormais indispensables pour la pérennité et le niveau de qualification de la profession des pisteurs secouristes. À ce jour, ces textes essentiels pour les élus des stations de montagne n'ont toujours pas été portés à la signature ministérielle. Donc, l'Association nationale des maires de stations de montagne, réunie en Assemblée générale à Saint-Lary-sur-Aulan le 18 septembre 2025, a demandé que les pouvoirs publics, et en premier lieu les ministères de l'Intérieur et des Sports, intègrent par un arrêté l'application du décret de 2012. Cette spécificité reconnue depuis un quart de siècle est indispensable à la réussite des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Confirmant ainsi définitivement le brevet national de pisteur secouriste. Voilà, il est proposé que le conseil municipal d'Huez, lors de la réunion du 15 octobre 2025, après avoir pris connaissance de cette demande, s'associe pleinement à cette motion.
Voilà, je souhaitais vraiment relayer cette délit parce que le pisteur est quelqu'un qui est un peu en voie de disparition. Par rapport à ceux qui ont pu connaître à une époque les pisteurs qui avaient des diplômes, qui étaient reconnus. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre en place des fois, pour des histoires d'économie aussi, sous la coupe des remontées mécaniques, de mettre en place des personnes qui n'ont pas toujours tous les diplômes, mais qui sont secouristes, pas forcément pisteurs. Parce que, bon, c'est vrai que le déclenchement d'avalanche, maintenant, il se fait à distance avec les gazex, il y a plein de... Leur activité a perdu un peu de sa valeur. Avant, un pisteur, c'était vraiment un bon skieur. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ils ne sont pas bons skieurs, hein, mais ils sont quand même aujourd'hui un peu affectés par tout ça. Et c'est pour ça que quand la fédération, qui, dont le président est Pierre Gey, hein, le maire des Menuires, je rappelle que là-haut, Le service des pistes est un service communal, comme il était en France au début, chez nous aussi, qui était donc sous la coupe du maire. Et c'est pour ça que souvent je taquine un peu Fabrice en disant « Attention, moi, le chef des pistes, j'aimerais bien avoir quand même une vue au-dessus de lui et avoir une vision que la mairie ait son mot à dire dans l'embauche du service du directeur des pistes qui doit être fait normalement par le maire. » Les remontées mécaniques des SF ne sont pas tellement de cet avis-là. Hein. Vous l'avez senti, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Et comme ils sont quand même majoritaires, on parle beaucoup plus de DSF que de la fédération. Mais malgré tout, je pense qu'il faut vraiment garder cette organisation. Il n'est pas question pour nous de repasser dans un système communal. Hein. Ça serait bien trop lourd. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que la sécurité, le responsable, c'est le maire, c'est lui qui doit être un peu... Et c'est pour ça que je pensais que c'était bien de soutenir cette association, cette fédération de la sécurité des secours sur le domaine skiable, que l'aide, donc le maire de Mémire, qui, par avis, qu'on lui apporte son soutien. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci pour les pisteurs. On continue avec les frais de secours.
Oui. Donc, comme chaque année, en avant-saison et pour la saison cette fois-ci 25-26, on va voter les tarifs de secours sur piste et les tarifs de secours hors piste. Dans la délibération, j'ai noté qu'il y avait deux tableaux, mais c'est deux fois les mêmes en fait. Donc je pense qu'il y a une page en trop. La deuxième page est à supprimer. Et puis sur la première page, sur les tarifs, vous avez normalement dans la colonne de droite tout ce qui concerne le N-1, mais c'est pas très bien sorti à la sur le scan. Donc je vais vous les donner. J'ai juste noté les prix hors taxe. Donc pour les interventions front de neige, ben, il n'y a pas de changement sur le N-1, c'est 158,42. Pour l'intervention montoneige, c'est la même chose, 356,44. L'embarcation, 551,49. Avec prise en charge d'hélicoptère, 993,07. Pas de changement non plus. Et puis, 1024,75. Sans le SAF, mais sur les pistes spécifiques, qui sont les pistes du glacier et puis les combes charbonnières, balcons, tunnels et brèches qui nécessitent beaucoup de personnel et puis des secours plus longs. À noter aussi qu'en cas de secours hors piste, avec intervention exceptionnelle ou en cas de recherche du personnel égaré, il y aura une facturation qui peut être faite sur des suppléments d'effectifs qui vont être mis en place. Donc là, vous avez tous les prix qui concernent ces prestations qui seront facturées en plus du secours.
Et le client, il paye, parce que là, c'est hors taxe, le client, il paye, il y a pas de TVA sur les secours ?
Il paye le prix TTC, donc en fait, j'ai donné que le prix hors taxe pour le NMOA, mais le prix TTC est identique puisque tous les prix sont identiques. Donc 160€ pour le front de neige, 360€ pour la motoneige, 557€ pour l'embarcation.
Donc ça c'est TTC alors ?
C'est TTC, oui.
Mais c'est une TVA à combien alors ?
C'est du taux réduit, c'est ce qui est indiqué, au-dessous.
C'est à 10.
Il n'y a pas 10.
Non, il n'y a pas 10 là. Hein.
La 160
pour
158, ça fait
1,6.
Donc ça fait
1%.
Voilà.
Donc c'est, il y a 1% de TVA. Il n'y a pas de taux de TVA à 1%. Hein. Ça, c'est hors TVA, ça.
Non, ça ne doit pas être la TVA, la différence. Parce que c'est plutôt 1%.
Non, mais je pense qu'ils ont arrondi. Ils ont arrondi. C'est tout. Ouais, ça a été arrondi, mais après.
Ouais, c'est plutôt.
C'est arrondi.
Mais la TVA est à combien ? T'as 10%, c'est ça ? 20% ?
Elle est à 10% la TVA.
Oui, c'est le tarif de mairie et ça, c'est le tarif des secours. Oui, ça doit être arrondi pour les secours. Mmh. Pas demander 158,42 aux blessés.
Ouais. Donc c'est 160 plus X% de TVA, on va dire.
10%, c'est ça. Donc il faudrait par contre, c'est facturé en mairie au service des secours. Je ne sais pas pourquoi c'est pas le même. La différence, c'est peut-être le 1% conservé par la SATA dans le cadre de la convention qu'on a avec eux. C'est eux qui font le boulot.
Ouais, c'est ça, mais
c'est
un prix TTC, ça.
Ça, c'est le prix TTC, alors.
Oui, en fait, c'est ce qui est facturé aux mairies, c'est un petit peu différent. Il y a une petite différence qui doit être de 1%, qui est en fait, la part que la SATA conserve par le fait de faire le boulot. Parce qu'en fait, ils font le boulot pour nous.
Ouais, mais là, si c'était TTC, ça leur coûte de l'argent. Hein.
160. Ouais, mais c'est TTC parce que... des deux côtés.
Ah, d'accord. Ah, c'est TTC des deux côtés. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas hors taxe, alors. Ok.
Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a 1%.
D'accord.
1% sur un total de secours qui doit être de...
On récupère pas
et qui doit être...
560 000 euros, quelque chose comme ça.
560 pour secours.
Ah oui, on est à plus de 400
000. 400 000 ouais. Donc, mettons 500. Donc, ça fait 5 000 euros que la SATA conserve. Mmh. Oui, ça paye. Ce qui est important surtout, c'est que la SATA nous fasse la recherche des impayés. Ce qui nous coûtait cher, c'était pas tellement ça. Plutôt les impayés.
Et c'est eux qui le gèrent.
C'est ça.
Eux qui gèrent, mais c'est nous qui le subissons.
Oui, mais je veux dire.
Mais en principe,
elle est vraiment compétente et
vachement
bonne. On lui prend les cartes bleues déjà.
On a eu à une époque 1000 euros de perte à cause des impayés. Hein. C'était énorme.
Donc là, vraiment, c'est beau. Parce qu'après, quand elle arrive pas, on pourrait. Voilà, elle a signé.
De toute façon, maintenant, c'est... Vous êtes blessé, vous voulez qu'on vous ramène
la carte bleue.
La carte bleue. C'est peut-être les médecins.
Le problème, c'est les étrangers.
Oui,
c'est
les étrangers. Ils ont plusieurs
cartes bleues étrangères. Donc, c'est pas mal, en France.
Le problème, c'est les étrangers, par contre. Non, mais...
Bon, OK pour ça.
Oui.
Bon, ça fait vite un peu d'argent, hein, mais le problème, c'est que le tour d'hélicoptère, vous en profitez pas bien. Alors, c'est pas le genre de choses à aller chercher. On supprime la deuxième page. Des observations, des questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci Yves. On va passer à une convention de servitude de Gilbert. Avec Duval.
Oui. Je vais passer une convention de cette société. Là, ils ont besoin de traverser une parcelle communale pour l'évacuation de l'eau pluviale. Donc, il est indiqué au conseil municipal que la SCCDS Développement Duval, développement, a implanté une canalisation souterraine d'eau pluviale en bordure de la parcelle communale qui est d'Astrée, C-967, qui appartient donc au domaine public. Les travaux d'enfouissement de cette canalisation traversent la parcelle communale, d'Astrée C-967, et les fontaines du Corbeau et Grangette, qui consiste à établir à demeure dans une bande d'un mètre de large, dans une tranchée d'une longueur de 5,50 m environ, une canalisation d'eau pluviale desservant les parcelles AC-770, et C-870, sur lesquels la résidence Expression est en cours de construction. La commune souhaite régulariser l'occupation de cette emprise du tréfonds du domaine public par la signature d'une convention de servitude au titre de l'article 21.2.4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il est proposé que le conseil municipal autorise M. le maire à signer avec cette société une convention de servitude pour l'enfouissement d'une canalisation d'eau pluviale, donc 5,50 m, sur environ 5,50 m, 5 m² 50, en très fonte de la parcelle communale C967, lieu dit Fontaine et Corbeau, Fontaine du Corbeau et Vengette. Indique ses conventions servitude de passage en très fonte consentie pour la durée de l'ouvrage, moyennant le droit de devance forfaitaire de 10 000 euros et payable à signature de la convention de servitude. Désigne Maître Claire Gribaudot comme notaire en charge de dépôt au service des hypothèques de convention de servitude régularisée. Précise que les frais notariaux sont à la charge de la société développement et que la recette correspondance sera prévue au budget communal.
Merci Gilbert, juste pour bien noter, hein, vous avez vu dans, le sens, dans quel sens elle marche. Donc vous voyez que c'est, Jérôme va vous le redire, c'est après le virage qui mène à l'éclose, c'est ça, hein, Jérôme ?
Oui,
c'est ça. Et c'est donc, le elle est marquée en
transit,
en rouge, hein, le gros EU, non ? Non ?
C'est
5,50 m, ça fait pas bien loin. C'est cette partie-là, non ? D'accord. Ah oui, d'accord.
C'est où alors, puisque alors,
c'est
tu Yves.
C'est la partie que vous marquez. Vous avez
après le virage des CSE qui ont été créés.
Quand vous montez comme ça, vous avez la ligne droite. Là, c'est le chalet, un des trois chalets du Daria.
J'ai marqué le transit.
Ça, c'est les cabines. Et donc, c'est avant les CSE qui ont été mis au bord de la route, qui ont été mis d'ailleurs devant les fenêtres.
Ça va.
Du voisin, donc, quand ils transforment, mais bon, ça, c'est leur problème. Et du coup, oui, c'est une petite partie où ils sont venus empiéter chez nous.
Mais il n'y a pas
de choix que. Ah, la route est là, tu vois, et c'est une partie qui déborde sur notre. Ah, d'accord, ok. Merci.
Ça va, côté, c'est pas 10 000 euros. Ça a été dur à négocier, mais.
Bah, c'est bien négocié.
Non, mais vous l'avez pas payé.
C'est pas étonnant. C'est Valérie Duban. Non, c'est. Mais elle est. Mais. Ils sont
la force
de. Jérôme. De Jimane. Donc voilà, la convention, si vous voulez qu'on touche les 10 000 euros sur cette route, c'est, on profite puisque maintenant elle va être bientôt refaite toute belle. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Et on va passer maintenant la parole pour les deux débits sur les finances.
Alors, nous allons faire les DM2 du budget principal et des parcs de stationnement. Il n'y aura pas pardon, du palais des sports. Il n'y en a pas sur les parcs de stationnement et sur l'eau. Ce n'était pas nécessaire de faire des DM. Donc, concernant le budget de bord, comme d'habitude, c'est, vous savez que les estimations, il y a toujours des estimations qui sont faites au moment du budget. Du vote du budget, et puis au fur et à mesure des ajustements de prévision, eh bien, on ajuste les crédits budgétaires. Donc, c'est pour ça qu'on passe des DM. Donc, sur le budget principal, en section de fonctionnement, les recettes et dépenses s'équilibrent à 530 779 et en section d'investissement à 499 426. Donc, si nous reprenons les dépenses de la section de fonctionnement, donc là, il y a les chapitres, mais bon, on va plutôt prendre un petit peu les détails plutôt que les chapitres qui ne disent pas grand-chose. Les dépenses, donc, nous avons 10% de reversement de taxes de séjour au département, puisque nous avons une augmentation qui est quand même intéressante au niveau de la taxe de séjour. Donc, comme vous le savez, nous devons reverser 10% au département. Donc là, on reverse 30 000 euros au département. Quelques charges à caractère général pour 1975 euros. On a quelques frais de restauration collective pour 1772 et une augmentation des coûts de l'alimentation de 9 770 euros. Les affaires juridiques, on a 11 000 euros. c'est une provision qui était faite pour le centre, pour le centre équestre. Ensuite, en service technique, ça, ça concerne les réparations et la maintenance, il y a 24 790 euros. Le parc auto, 5 000 euros. La sécurité, 6 400 euros. Et le partenariat de sportifs, il y a deux sportifs, donc 15 000 euros. Et, il y a Noah Viande et j'ai mangé le nom de...
Noah Viande ?
Oh, joli.
Non, c'est le bosseur.
Ah, c'est notre, le bosseur.
C'est un anglais.
Oui.
Benoît.
Benoît Jansson.
Donc là, vous êtes toujours dans le chapitre 11, c'est ça ? Vous êtes toujours dans le chapitre 11, Nadine ?
Non, j'entends pas parce que.
Le chapitre 11.
Oui.
C'est, d'accord.
Ensuite, donc, nous avons une augmentation du FPIC de 51 493. Bon, ça, c'est, on l'attendait un petit peu, l'augmentation du montant. Mais bon, elle est arrivée. Ensuite, en informatique, ça concerne plutôt des licences et également des pannes que nous avons eues en informatique, 8 556 euros. Et alors, par contre, à contrario, il y a des diminutions sur les logements, 2 500 euros. En communication, une diminution de dépenses de 3 500 euros. En logistique, de 10 146 euros. Ensuite, en service technique, pour le fonctionnement, 7 100 euros de dépenses en moins, 3 500 en charge à caractère général, et puis sur les archives également, 3 000 euros de dépenses en moins. Donc ce qui nous permet de faire un virement à la section d'investissement de 393 465, et donc ça correspond au total des dépenses que vous avez sur la délibération, 530 779. Alors, s'il y a des questions plus précises, Véronique est là, mais on ne peut pas forcément répondre à tout de suite. Donc, elle se tiendra à disposition de ceux qui souhaitent avoir d'autres précisions. Alors, les recettes. Nous avons des recettes, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 300 000 euros de taxes de séjour supplémentaires. Donc, on va arriver à 2 millions d'euros. A priori, à 2,3 millions, 2,4 millions, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, tout n'est pas rentré encore, il en reste un petit peu à rentrer. Donc là, on se base que sur ce qui a été encaissé. Ensuite, vous savez que lorsqu'il y a des ventes de biens sur la commune, il y a des droits de mutation qui reviennent à la collectivité. Il y en a pour 70 000 euros. La CAF également nous verse des subsides et là, ça augmente de 98 472. On avait auparavant 230 000 sur le budget primitif. Les revenus des immeubles, il y a plus 55 000 euros. Le périscolaire, 3 600 euros. La restauration collective, 2 000 euros. Le logement, 2 000 euros. Des taxes d'atterrissage pour 3 534 euros. C'est quand même... on a des taxes d'atterrissage. Non, ça ne paiera pas la réflexion du tapis. Mais bon. Par contre, en culture, les redevances sont un peu diminuées. On a eu moins de visites, moins de 2 200 euros. Et moins de ventes de concessions de cimetières, 3 650 euros. C'est-à-dire qu'on avait pensé vendre un petit peu plus. On a plutôt vendu des columbariums. Et bien sûr, du coup, la recette est un petit peu moins importante. Et en plus de ça, on a décidé de réserver les places au cimetière aux résidents de la commune parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, malheureusement. Donc, les recettes s'élèvent à 530 779, ce qui équilibre la section de fonctionnement.
Quel genre de résident ?
Pardon ?
Tous les résidents ?
Résidents permanents. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les résidents secondaires.
C'est on a c'est beaucoup de résidents secondaires qui nous demandent et en fait, on refuse parce que sinon, on n'aura pas cette place. Et on leur propose, et ils acceptent la plupart du temps, c'est de mettre une plaque... dans le jardin souvenir,
le jardin
on est censé...
Non, pas, pas
mettre les cendres. Et du coup, globalement, ils acceptent et ils financent la petite place qui nous permet de répondre à leur demande.
Il faut être permanent depuis combien d'années alors ?
Comment ?
Il faut être permanent depuis combien d'années, Nadine ?
En fait, il y a beaucoup de résidences secondaires qui sont là depuis longtemps. Et donc, on leur dit, pour l'instant, on se voit mal refuser des permanents alors que les secondaires seront dedans. Donc, on n'a pas forcément mis d'années. Mais ce qui est certain, c'est qu'on privilégie celui qui habite sur la commune en permanence. On ne regarde pas forcément les années d'avant ou pas. Mais à savoir que c'est tendancieux. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on tient le coup comme ça parce que sinon, il faudrait commencer à agrandir le cimetière. Mais très sincèrement, on ne sait pas par où l'agrandir. C'est pour ça qu'on est allé faire des recherches de toutes ces vieilles tombes qu'on a pu récupérer et qui nous permet d'avoir de quoi proposer un peu pour les habitants. Mais quand on avait agrandi le cimetière, on avait une durée, je me rappelle à l'époque, on s'était dit on est tranquille pour 30 ans. Je pense 10 ans après, on commence à saturer parce que les gens anticipent beaucoup plus aujourd'hui et réservent, même si aujourd'hui tout est payant par rapport à avant où les gens ne voulaient pas lâcher parce que les tombes étaient gratuites. Donc il y en a qui avaient 2-3 tombes de famille disséminées sur le cimetière. Et finalement, là, on essaie de les grouper en une. Mais c'est pas une. Bon, c'est une parenthèse.
Ouais,
d'accord.
Nécessaire.
Il faut penser à l'avenir.
Ça fait partie de la vie.
Alors,
comment ça se passe dans les vieilles tombes qu'on récupère, où il y a déjà des plaques mortuaires ?
On a fait un appel d'offres que je vais mettre dans les infos au conseil pour justement les casser. Très sincèrement, j'aurais aimé qu'on en conserve, mais en fait, on ne peut pas aller avec des engins. Donc, on a ici. À l'heure, du coup, je peux en parler puisque ça va en face de ça. C'est une partie des infos du conseil qui dit à l'issue des différentes formalités prescrites par le code des collectivités, au vu de la persistance de l'état d'abandon et de non-entretien des tombes, 23 concessions funéraires, si dans le cimetière du S, ont fait l'objet d'une procédure de reprise. Derrière ça, on a lancé un marché, ça s'appelle numéro 25 SIM. Qui avait pour objet les travaux de reprise des concessions abandonnées ou récupérées par la commune d'Uez, de façon à les casser, à les remettre, et puis à déplacer des corps s'il y avait des corps à l'intérieur. Et cette procédure du marché public relatif aux travaux de reprise des concessions abandonnées ou récupérées est déclarée infructueuse en raison de l'absence d'offres déposées dans les délais, parce qu'aujourd'hui, les 2 ou 3 qu'on connaît de la région qui s'occupent des cimetières n'ont pas de disponibilité pour faire ce travail. Mais du coup, on va relancer un moment, on trouvera bien quelqu'un pour aller les casser. Pardon, c'est une parenthèse, mais...
Alors, donc, ensuite, en section d'investissement, on va parler des opérations d'équipement, c'est ça qui est important. Nous avons de la voirie pour 209 000 euros, ce sont un reste de travaux sur la place Pagano. En équipement service technique, c'est du matériel qu'il a fallu réacheter, 45 000 euros. Moins en équipement administratif, moins 3 500 euros. Les bâtiments économie de 6 300 euros. Et alors, on avait un crédit sur l'aménagement de la patois de 713 840. Étant donné qu'on ne finira pas cette année la partie des travaux correspondant à ce crédit, ce crédit est reporté sur 2026. Et ce qui nous permet malgré tout, du coup, de faire la réflexion de la piste de l'Altiport, puisque c'est une demande de la DGAC, et donc de mettre 545 000 euros, justement, pour cette réflexion dans les opérations d'équipement en section d'investissement.
Moins les 3 000 qu'il y a eu citées de recettes. Hein.
Mais on avait 400 000 déjà qui avaient été mis dans le budget, qui avait déjà été provisionné. Parce que malgré tout, la réfection de la piste, c'est plus ou moins 900 000 euros. Donc,
et ça va commencer quand, les travaux de la piste de l'Altiport ?
Mais c'est obligatoire.
Printemps. Le budget, on l'aura cette année, mais...
Printemps 2026, d'accord.
Il faut qu'on lance...
Ce sera fait au printemps. La DGAC a accepté qu'on reporte au printemps.
L'hiver,
voilà, la commande sera passée cette année et les travaux
seront réalisés au printemps. Cette année, voilà, c'est pour ça qu'on
cette année, de toute façon, ils ont assez de boulot.
C'est parce que ça reste dans le budget 2025, parce que la commande est passée cette année, c'est ça ?
La commande est passée cette année.
En fait, cette année, le budget est prévu pour cette année. Donc la commande sera passée cette année, mais les travaux seront faits au printemps.
Donc l'année prochaine.
Voilà, ouais.
En 2026.
Sachant qu'il y a 900 000 euros de travaux pour refaire la piste. C'est énorme. Mais bon, après, elle n'a pas été...
Il y a quand même
des trucs, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas été faite. Mais c'est vrai que quand on propose de monter un peu les tarifs d'atterrissage, ça se conçoit aussi, parce que ça fait vite beaucoup d'argent. Mais bon, si on veut la garder, la DGAC nous oblige à le faire. Ils ont accepté de le faire au printemps. Ils peuvent encore passer un hiver comme ça. Mais il faudra le faire.
Et c'est quoi, par rapport à une route, c'est quoi la différence en termes de revêtement? C'est... Non, mais je veux dire, je parle le revêtement.
Le revêtement, c'est quasiment le même
que la route.
La portance 13, on a fait des études. Mais la seule chose, c'est que là, on est sur des surfaces qui sont énormes.
Ouais,
longueur, de retournement. Mais j'ai encore un petit peu d'espoir. J'essaie de négocier encore un peu. Ouais.
Oui, parce que certainement, en termes de poids posé sur une roue, c'est pas tout à fait pareil.
On a fait des tests de portance, effectivement, il y a des endroits pour reprendre un petit peu. Et pour autant, malgré le prix annoncé, il y a quand même une partie de ce qu'on appelle du freinage, donc le rabotage, qui sera recyclé. On lui ajoute des liants, on le remet en œuvre. Donc on essaie d'en récupérer une partie.
En tout cas, on l'a prévu.
Il y a des trucs
pour ça.
Mais il fallait qu'on s'engage vis-à-vis de la DGAC. Alors donc après les recettes, ce sont essentielles, c'est le virement de la section du fonctionnement, 393 460, et puis des opérations d'ordre, puisque vous avez en section d'investissement 105 961 en dépenses que vous retrouvez en recettes, ce sont des écritures. Donc voilà, je vous propose d'adopter la décision modificative numéro 2 sur l'exercice 2025 du budget principal qui s'équilibre en fonction de fonctionnement à 530 779 euros et en section d'investissement à 499 426 euros. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents à l'application de la présente délibération.
Est-ce que vous avez des questions ? Pas d'opposition, une opposition, une abstention, c'est tout bon, donc une opposition. Merci Nadine, merci Véronique et les services. On va passer maintenant au sport et congrès.
Donc là, les chiffres sont moins importants. Section de fonctionnement, recettes et dépenses, 41 100 euros. Section de fonctionnement, 40 020 euros. En section de fonctionnement, alors les dépenses, section de fonctionnement. Pour le cinéma, il a fallu, on a eu besoin de contrats de prestation de services de SIAP, donc ça nous a augmenté de 7 000 euros. Pour le palais des sports, on a des charges à caractère général pour 3 200 euros supplémentaires. Par contre, on a des redevances, c'est notamment la SACEM, moins 10 000 euros. Pour la piscine, on a eu de la fourniture de gaz qu'il a fallu faire suite à une fuite, 6 900 euros.
Patinoire.
Pour la patinoire, il y a une économie d'énergie et d'électricité de 20 000 euros. Pour la patinoire, il y a des recherches de fuite de gaz là aussi et de rechargement de CO2 pour 61 000 euros là de dépenses effectives. Ensuite, on avait mis des provisions trop importantes pour Hollande. Donc, entretien de location, on a moins 5500 euros. Et entretien des terrains, moins 9550 euros. Et puis, en sécurité, moins de petits équipements, 2500 euros. Donc, ce qui fait qu'on a des dépenses pour 41 100 euros. Ensuite, les recettes. Alors, les recettes, c'est au palais. On a eu des séminaires, notamment un gros séminaire qui va arriver pour décembre 2025, des campings Flower, quelque chose derrière, je ne sais plus quoi.
Flower by Odalis.
Ouais. 26 600 euros. À la piscine, plus 5 000 euros. De recettes, au cinéma plus 9000 euros, à la patinoire plus 500 euros.
Ah,
donc que 41 100 euros, ce qui équilibre la section de fonctionnement. Et en section d'investissement, alors là, en dépenses, donc au Palais des Sports, ça, on a 42 000 euros. C'est l'acquisition d'un paddle qui sera mis à l'intérieur du Palais des Sports dès cet hiver, je crois.
Oui.
Voilà. Et puis donc, à la patinoire, on a fait une économie de 6 000 euros. Et donc ensuite, en recette, on a une subvention d'équipement du budget principal qui est diminuée de 200 000 euros. Mais par contre, on a une subvention d'équipement du département. Alors ça, c'est la fin de la subvention que nous avions demandée pour l'extension du Palais des Sports, 236 000 euros. On avait au total 736 000 euros qui a été étalé sur 3 ans peut-être. Et donc là, c'est la fin, on vient de toucher la fin de la subvention. Ce qui nous fait donc des opérations de recettes et dépenses à 40 020 euros. Et donc, je vous propose d'adopter la décision modificative numéro 2 sur l'exercice 2025 du budget annexe sport et congrès qui s'équilibre en section de fonctionnement à 41 100 euros et en section d'investissement à 40 020 euros et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document d'inhérent à l'application de la présente délibération.
Donc, David a parlé de la subvention, hein, c'est... Oui, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même intéressant d'avoir une subvention importante quand on fait des travaux. Hein. On ne les compte pas souvent dans les budgets au départ, parce qu'on ne sait jamais les subventions que l'on va toucher. Et quand on fait des plans d'investissement à long terme, on ne sait jamais ce qu'on doit mettre, si on peut mettre des choses. Mais vous voyez qu'il y a quand même des subventions qui arrivent là du département. Donc c'est... globalement, il y en a quand même pas mal qui arrivent et qui nous aident.
Et le paddle, il sera où exactement ?
Sur les tennis numéro 1.
Donc il n'y aura plus de tennis numéro 1 ? Si ?
Non.
Bon, il y aura juste...
Le tennis numéro 1 sera la place de tennis numéro 2. Il n'y aura plus qu'un seul cours de tennis.
D'accord, ok. Il y aura un cours de paddle sur le cours de tennis. D'accord. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions ? Juste pour dire que sur les deux budgets, ça fait des montants qui sont quand même pas très très importants, qui montrent bien que on a eu sur la piscine, sur la patinoire, on a eu des fuites et un gros problème de mise en route qui a été géré quelques dépenses, mais qui montrent bien que les dépenses prévisionnelles étaient tout de même pas très loin de la réalité. Donc quand on fait des DM et qu'elles sont pas très importantes, c'est quand même bon signe que le budget a été bien évalué et que
les services donnent bien leurs besoins.
Ouais. Ouais. Globalement, c'est bien suivi. Des remarques, non pas de remarques. Les oppositions, une. Les abstentions. Juste pour mon info, mais si tu veux. C'est une opposition, pourquoi ?
Parce que depuis le début, je demande une commission finance. J'aurais bien aimé qu'on ait mis en place une commission finance pendant cette mandature, qu'on n'a jamais eue. Voilà.
On a mis en place cette demande de...
Oui, on n'a pas la... Non, il n'y a pas vraiment de commission finance qui a été mise en place. Voilà. une revue d'orientation budgétaire, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on mette en place une commission finance, vu les budgets quand même qui sont...
Quand on a mis le débat d'orientation, tu n'étais pas présent.
Si.
Non, pas au dernier...
Bon, c'est pas grave, hein, ouais. Juste parce que au-delà d'être contre ce que peut faire notre équipe, c'est plus, c'est un peu désolant vis-à-vis des services. On travaille, pour être respecté de ça, mais après, c'est personnel. Alors, les infos au conseil. Le reste des infos par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'attribution au MAPA, mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de vestiaires et de logements sur le terrain de foot municipal, dans le cadre de la consultation concernant la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de vestiaires et de logements sur le terrain de foot municipal, le marché a été attribué par beaucoup d'entreprises dont la société A, la Fargue, est mandataire, est signé le 16 septembre pour un montant global et forfaitaire de 82 439 euros hors taxes. Pour le marché d'exploitation des services de transport public touristique, dans le cadre de la consultation concernant l'exploitation de services de transport, le marché a été attribué à la société Rezalp et signé le 19 septembre 2025 pour un montant maximum de 5 millions pour 4 ans. Rassurez-vous, on a encore vu Rezalp aujourd'hui pour faire un bilan et on en est à travailler sur du long terme et avec un montant qu'on n'atteindra pas, bien sûr, hein, mais qui acte quand même la volonté de mettre, ça fera plaisir à Denis, deux navettes que du coup Rezalp a commandées, électriques, mais qui malheureusement ne seront pas livrées, et là il faut les commander maintenant, pour les avoir en décembre 26. Donc ça veut dire que ce ne sera pas avant l'hiver prochain, on ne les aura pas l'été prochain. Par contre, on a révisé le carburant pour passer en HVO en attendant et pour mettre en HVO sur les autres navettes. Donc c'est plutôt de bonnes nouvelles. Et là-dessus, bon, nous, ça se passe très bien avec les amis. Voilà pour les informations au conseil. Vous avez des questions ?
Moi, j'ai deux questions, Jean-Yves. La première, c'est que je reviens sur le mail que j'ai envoyé sur la mise à disposition de salles dans le cadre de la prochaine campagne électorale, pour moi, enfin pour les candidats qui vont se présenter. J'ai juste là la délibération qui a été prise par le conseil municipal de Bourdoisan, qui met à disposition des salles, à la fois pour des réunions d'équipe, pour des réunions publiques, et qui met à disposition des salles gratuitement. Donc là, il y a un certain nombre de salles qui sont listées. Donc, j'aimerais qu'on fasse la même chose ici à l'Alpe d'Huez. Donc, moi, pour les réunions d'équipe, j'avais identifié la salle des associations et la salle de la maison d'Huez. Et pour les réunions publiques, j'avais identifié donc la salle de la maison d'Huez et puis éventuellement le cinéma, les écrans, lorsqu'on fera une réunion publique sur l'Alpe d'Huez. Voilà. Comment ?
Le cinéma, les écrans, c'est pas
chez nous ? Pardon, excuse-moi. Ouais. La salle de cinéma du Palais des Sports, voilà.
Alors, moi, je t'ai répondu en disant que je n'étais pas du tout favorable à ça. On en a parlé, nous, entre élus. Je pense que quand on s'investit pour une campagne électorale, on doit y mettre des moyens. Et je ne souhaite pas, personnellement, et d'ailleurs, on ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je sais que Guy a dit oui à Bourg. Bon, c'est son problème, mais... En plus, nous, on sait que les salles au palais, elles sont presque occupées tout l'hiver.
Ah, mais là, je te parle de la salle des associations et de la salle de la maison d'Huez.
D'accord.
Ça n'a rien à voir avec le...
Mais même aussi, et très sincèrement, je ne suis pas favorable à une gratuité. Je pense que celui qui peut, quand il veut, il s'investit, les gens peuvent payer une location de salle au même titre, ça évite des débordements, ça évite... le fait qu'on soit obligé de dire, mais attendez, parce qu'après, on va dire derrière, vous limitez, c'est quoi? C'est tous les jeudis à telle et telle heure? Non. Donc, moi, personnellement, et c'est l'avis un peu de mes collègues, c'est de dire que si on veut s'investir, on finance sa campagne et on paye ses salles, on paye ses locations de salles. Désolé, mais bon... Bah,
alors ça veut dire que tu dis que les gens qui s'investissent à Bourdoisan, eux, voilà, ils ne sont pas dans cette configuration-là.
Bourdoisan fait ce qu'il veut, je dirais, mais
Et je sais qu'au-delà de pareil, donc les salles sont gratuites. Donc je suis un peu surpris que à l'Alpe d'Huez, parce qu'on est à l'Alpe d'Huez, on est.
Ouais. Moi, je suis voilà. Pour le faire.
Bah, justement, ça serait bien puisque tu ne l'as jamais fait, mais ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais fait qu'il ne faut pas le faire, Jean-Yves.
Voilà.
C'est pas des abus en fait. Là, tu organises, après c'est organisé. La façon dont tu peux réserver la salle, tu les réserves, etc., suffisamment longtemps à l'avance. Et puis c'est pas.
Heureusement.
Voilà. Mais voilà, donc si tu veux, c'est quand même. Moi, je pense que c'est plutôt sain de faire comme ça, tu vois. De le faire gratuitement.
Voilà. Notre position, c'est de dire que c'est plutôt sain de payer.
D'accord. Donc,
voilà.
Donc d'accord, donc on va dire qu'à Bourdon, ils sont malsains alors. Voilà.
Non, ils n'ont pas la même notion de ce qui est sain et malsain.
Écoute, on a fait un choix, celui-là.
D'accord.
Vous faites assez de choix qui sont contre les décisions qu'on prend pour que vous compreniez qu'on puisse faire un choix qui n'aille pas dans votre sens.
Ah, écoute, voilà, c'était juste, je trouvais que c'était justement plutôt sain de faire comme ça, mais bon.
Ok.
Ouais, et puis la deuxième question que j'ai à te poser, c'est qu'il y a le, tu sais, sur, entre l'échappée et le Catex, là, il y a une pelle mécanique.
Oui.
Qui emprunte la route tous les jours, je sais pas, donc je pense qu'il doit défoncer la route.
Oui, ouais. J'ai vu passer ce matin.
Donc elle passe, je pense que c'est, elle passe pratiquement tous les jours. Donc elle défonce. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait reprendre le. Enfin, surtout que vous habitez dans le coin, Nadine, donc vous voyez bien. Donc,
ouais. Ah, j'ai pas vu.
Les gens qui sont sur la route.
Sur
ouais.
La
ouais.
Ça, c'est parce qu'ils travaillent dans la
conversation. Donc là, je pense qu'ils doivent nous défoncer la route. Hein.
Oui,
Mais ça, il n'y a pas de terrasse qui arrive par contre, parce qu'ils vont pas être contents.
Donc je pense que ça serait pas mal de voilà.
Mais alors, on voit si on
comment oui.
Ouais. Et du coup, pour éviter de prendre un char.
Un port char.
Alors après, je vais voir ce que c'est comme chaîne. Hein. Parce que si c'est des chaînes en des chenilles, si c'est des chenilles en caoutchouc, eux là, ils l'ont fait. Et c'est vrai que ça n'abîme pas. Après, tu sais,
ça faisait
du bruit. Mais ça fait moins, c'est pas le même bruit. Il faut demander pas en public pour comprendre. Non, mais c'est vrai, c'est pas pareil. On le sent quand. Oui, avec des chaînes en acier, alors là, ça défonce. Ça m'étonnerait qu'ils montent avec des chaînes en acier. Parce que là, ils se feraient vraiment défoncer parce que ça se verrait.
Non, mais j'ai
pas vu. Oui, parce que. Il y en a un qui l'a fait l'autre jour devant chez nous, là. Qui est passé, mais j'ai regardé, c'est des chaînes en caoutchouc. Donc il a tourné derrière. Je sais plus pourquoi c'était une petite pelle. Parce qu'entre deux chantiers, ils ne veulent pas normalement. Ils doivent aller chercher un char. Un char, ça coûte. Donc, on redira pour la sauve, je soupçonne.
Ok. Merci.
Ok, d'autres questions?